Bonjour, je suis Alice Quinn. Je vais vous lire pendant le confinement des extraits en feuilleton de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 mars. Il s'agit donc de la lecture numéro 1. Je vous rappelle que ce roman, c'est une comédie policière. Donc, les personnes qui n'ont pas envie de lecture légère et de pur divertissement, passez votre chemin. Et ceux qui ont envie de se distraire et de passer un moment de bonne humeur, vous pouvez rester et j'espère que vous allez vous amuser et vous régaler autant que moi. Donc voilà, je commence Maldon au Festival de Cannes. Samedi, le jour des croissants. 1. Oui, c'est vrai, on est samedi et normalement le programme du samedi, c'est grasse matinée pour tout le monde dans la chaumière. Enfin, quand je dis chaumière, je veux parler de ma super caravane. Et là, c'est pareil, quand je dis super, je veux dire qu'il fut un temps où elle a été super. Après le passage de l'ouragan qui a inondé Cannes et fait plusieurs morts, ma caravane n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Elle est un peu cabossée et les parois sont délavées. Il n'empêche qu'il lui reste de sa splendeur. Ou peut-être suis-je la seule à la voir. Moi, je dors sur la banquette centrale, mais Sabrina, ma fille aînée, a une cabine pour elle toute seule, tandis que les jumelles, Emma et Lisa, partagent l'autre. Et Pastis, mon chat, lui, il va où il veut. C'est un nomade. Bref, mon sweet home, c'est le grand luxe. Il y a quelques semaines, sur l'insistance de mon amie Mimi, je me suis inscrite à un site de rencontre en ligne. Comme en ce moment je suis vraiment au bout du rouleau, question fric, je me suis dit que ça me changerait les idées, plutôt que de déprimer. Mon téléphone n'a pas internet, mon forfait ne le fait pas. Et je n'ai pas d'ordinateur, alors je peux répondre aux messages de mes amoureux seulement quand une bonne âme me prête son téléphone ou une tablette. Quand je trouve un téléphone qui a la 4G, j'échange avec des garçons, tous très beaux, très jeunes, très riches, très romantiques et très gentils. C'est comme ça qu'ils se présentent, avec des nuances personnalisées. Devant mes réponses sarcastiques, ils se lâchent assez vite et finalement on se marre bien dans l'ensemble. Malheureusement, c'est par intermittence à cause de mon manque de connexion. Pour revenir à ce samedi, je me réveille avec des paroles décousues d'une chanson dans la tête. C'est le dragueur des... Alors j'essaie de trouver l'air, mais je ne sais pas si je vais m'en... Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. C'est le dragueur des supermarchés, le don juan des ménagères, avec son cœur de camembert. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Bon, bref, ça c'était un petit aparté de l'auteur. Ma mère, Charlotte, qui est morte quand j'avais 16 ans, m'envoie toujours des chansons quand je dors. Elle me prévient de ce qui m'attend dans la journée et parfois les paroles me donnent des solutions pour me sortir d'un problème. Mais là, vraiment, je ne vois pas de quoi elle parle. Je n'ai absolument pas prévu d'aller faire des courses au supermarché. Avec quoi? J'ai plus un copec. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'y vais plus. Remplir un caddie, c'est de l'ordre du rêve éveillé. Parlez-moi des Restos du cœur, là, je comprends mieux. Pourtant, c'est pas la chanson des enfoirés qu'elle m'a envoyée, c'est la chanson du père à Thomas Dutronc. Jacques, je comprends pas. Mon programme, aujourd'hui, c'est les gilets jaunes, comme de nombreux samedis. Ils occupent toujours le même rond-point, aux abords de la ville, et moi, toutes les semaines, je leur apporte un énorme cajot rempli de viennoiseries datant de la veille. C'est la boulangerie à la brioche dorée qui dépose ses victuailles à mon intention au Select. Je n'ai plus qu'à passer au café, récupérer le tout et partir faire la fiesta sur le rond-point. Les enfants adorent ça. Je prends souvent Simon, le meilleur ami de Sabrina, le fils de Véro, avec nous. Ils ont le même âge. Simon ne parle pas. C'est un taciturne. Il n'y a que Sabrina qui comprend son langage muet. Les maîtresses pensaient qu'il était un peu attardé quand il était en maternelle et finalement il a sauté une classe et il va bientôt passer en 5e, alors que Sabrina, elle entre en 6e en septembre prochain. Donc ce matin, je réveille tout le monde en vitesse parce que le seul moyen pour que les enfants aient quelque chose dans le ventre, ce sera d'aller sur le rond-point aujourd'hui. Ensuite, j'essaierai de faire quelques heures au Select pour glaner un peu de cash. Ça me permettra de tenir 24 heures. Mais l'idéal, bien sûr, ce serait que je décroche un vrai job. Même à mi-temps, même à quart-temps, même pour quelques semaines seulement, j'ai vraiment besoin d'un vrai boulot. Les enfants sont ravis, car ils savent que le samedi, c'est le jour des croissants et des pains au chocolat. Ils enfilent tous un t-shirt jaune offert par un magasin de fringues de la zone industrielle qui passe de temps en temps sur le rond-point. Les insurgés ont essayé de me faire adopter le gilet jaune, mais moi, c'est hors de question que j'enfile cette chose informe. Je suis trop coquette pour ça. Quand Tony, le patron du Select, a vu que j'allais souvent là-bas le samedi, il s'est inquiété de me voir sans. Il appelle ça leur uniforme. Il a un peu peur d'eux depuis qu'il a vu des images du boxeur enragé. Il a aussi peur des flics quand il s'énerve. En fait, il a peur de tout du moment qu'il me sent en danger. Tony, ça fait un bail que je le connais maintenant. Il dit que son café ne rapporte pas assez pour qu'il m'engage en CDI, alors je bosse au black pour lui de temps en temps, quand il a besoin. Ça m'arrange, ça me dépanne et ça me fait un point de rendez-vous pratique. Je le soupçonne, en fait. C'est bien plus qu'un soupçon. D'en pincer pour moi. Moi, je fais l'aveugle et la sourde muette à tous ces signes, car j'ai une règle. Je ne mélange pas la vie privée et la vie professionnelle. Je n'ai pas envie de me retrouver sans boulot le jour où on ne s'entendrait plus au plumard. Je me connais. J'ai une fâcheuse tendance à ne pas donner suite à mes amours. Je ne sais pas si c'est vraiment ma faute. Ça se trouve comme ça. Peut-être que je choisis exprès mes hommes volages. Peut-être que j'ai peur de m'engager. Peut-être que je ne crois pas à la notion de couple depuis que mon père a lâché ma mère un peu avant ma naissance. En tout cas, Tony, c'est miette, miette, cacahuète. Et puis, il est un peu trop mère poule pour moi. C'est arrivé petit à petit. Ça s'est manifesté d'abord par des bouffées de jalousie et il s'est immiscé de plus en plus dans ma vie jusqu'à me surprotéger. Pourtant, il n'a que 5 ans de plus que moi. C'est pour ça qu'il m'a offert un gilet jaune par jour pour que je... C'est pour ça qu'il m'a offert un gilet jaune un jour, pour que je passe inaperçu le samedi et que je n'agace pas trop les potes les plus nerveux. Je ne le lui ai pas dit, mais je me suis empressée de le teindre en rose vif, ce qui a donné un orange étrange. Je l'ai cintré aussi, il est super stylé maintenant. J'ai fait quelques envieuses parmi les filles du rond-point, mais les types ça allait, ils n'ont pas moufté. Ils m'ont accepté avec mon gilet rose-orange. Je fais un poutou à pastis qui boude un peu parce qu'il n'aime pas quand on parle le samedi. Il me tourne le dos et s'installe de tout son long sur la table. Je lui laisse le fenestron de derrière entrouvert. À peine j'ai fermé la porte de la caravane à clé que mon téléphone se met à crépiter sa sonnerie de grillon. Voilà, je grommelle, ça va encore me retarder. Qui c'est le couillon qui m'appelle juste quand je commence à marcher et quand mon téléphone est au fond de mon barda? Je sais, mon interlocuteur ne peut pas le deviner, mais bon, un peu d'injustice de temps en temps, ça rétablit l'équilibre. Après 2 heures de farfouillage dans mon grand cabas de course, je brandis la petite bestiole et je décroche. Cri-cri, mais qu'est-ce que tu fous ? Oui, les personnes qui me connaissent bien savent que ça me fout en rogne qu'on m'appelle Rosie. C'est comme ça que m'a prénommée ma mère et comme elle est morte maintenant, je préfère qu'on m'appelle Cri-cri. Pourquoi Cri-cri ? Qu'on ne me demande pas, c'est venu tout seul. Ce qui est sûr, c'est que quand j'entends Rosie, ça me fait penser à elle et ça me fait trop de peine, alors j'ai esquivé en changeant carrément. Oh, salut Tony ! 2. Je suis à peine étonnée. Tony ne me lâche pas en ce moment, à croire qu'il n'a plus seulement une idée derrière la tête, mais qu'il aurait décidé de passer la vitesse supérieure. Ça fait 2 heures qu'ils ont apporté les croissants, ils sont en train de se dessécher. Allez, grouille, on t'attend là ! Oh, allez, arrête un peu, de toute façon, c'est les invendus d'hier qu'elle nous fourgue. Alors, oh, ça, c'est pas joli joli, Cri-cri. Dénigrer les cadeaux qu'on vous fait, je crois pas que Mémé Ruth serait heureuse de voir ce que tu as fait, de la bonne éducation qu'elle t'a donnée. Je sais pas pourquoi, depuis que Tony a découvert que ma Mémé Ruth a été une grande résistante, il la cite à toutes les sauces. Comme je ne veux pas d'histoire de bon matin, je fais comme si j'étais d'accord. Oui, je sais, t'as raison, Tony, je ne devrais pas critiquer. D'ailleurs, à cheval donné, on ne regarde pas les yeux. Non, c'est pas tout à fait ça, Cri-cri. Ah oui, on dit comment, alors ? C'est les dents qu'on regarde pas. Les dents, dis donc, Tony, va donc un peu te laver les oreilles, c'est exactement ce que j'ai dit. Galant, il n'insiste pas, mais il est quand même un peu agacé. Alors il raccroche, sans rien ajouter. « Il t'a raccroché au nez, maman ?» demande Sabrina. « Oui, c'est un malotru, » dit-elle. Elle aime utiliser chaque jour un mot qu'elle ne connaissait pas la veille et qu'elle vient de découvrir. Celui-là doit lui venir de Gaston. Les jumelles éclatent de rire en répétant ce mot. Elles sont persuadées que c'est un gros mot, ce qui les met dans un état de surexcitation extrême. Je dis les jumelles, alors qu'elles sont seulement de la même année, et que l'une d'elles, Emma, est la fille de ma meilleure amie Yasmina, morte en couche. J'ai cette petite à la maison depuis sa naissance avec la bénédiction de son père. Elle fait partie de la famille. Lisa, quant à elle, est la fille du seul homme avec qui j'ai été mariée. Il file à présent le parfait amour avec une patronne de plusieurs agences immobilières dans le Var. Comme rien n'est à son nom et qu'il est insolvable, il ne paye pas de pension alimentaire. Tant mieux, il ne réclame rien non plus et surtout pas la garde de la petite. On fait un détour par l'appartement de Véro qui nous fait un signe par la fenêtre. « Je vous envoie Simon !» Derrière elle, Ismène, sa compagne, se penche aussi et me crie « Le maire le mangera des cerises !» Je réponds en marmonnant « C'est ça, on lui dira. » Ismène est passionnée, on peut dire omnubilée, par les messages codés de Radio Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvent, je ne sais pas si elle me parle vraiment ou si elle s'amuse à coder ses phrases. C'est Sabrina qui me traduit. « Elle va aller au cimetière porter des fleurs sur la tombe de Marilyn, » dit-elle. « Comment t'as compris ça, toi ?»« Ben, c'est le code du cimetière. » Non, moi je pense plutôt qu'elle parle du cerisier de notre terrain vague et qu'elle nous prévient qu'il faut qu'on mette de vieux CD pour empêcher le merle de nous voler toutes les cerises. « Je ne crois pas, non, » répond ma fille pincée. Simon, qui arrive juste à ce moment-là, s'exclame « Bien content de venir avec vous, horreur des tombes. » Sabrina me regarde d'un air de dire « Tu vois, je te l'avais bien dit. » Je hausse les épaules. 3. C'est dans cet état de survoltage que nous arrivons au Select. Mimi est affairée au service et son fils Léo, qui a maintenant 19 ans, est venu faire ses devoirs ici. Lui qui était nul en seconde, voilà qu'il a eu son bac et qu'il est en première année de BTS. C'est fou quand même comme ça pousse. Je suis super excitée de le voir parce qu'il fait partie de ceux qui me prêtent volontiers leur téléphone pour que je discute en ligne avec mes courriers du cœur ou que je farfouille dans des sites de recherche de boulot. Je me mets dans un coin du café sous le regard irrité de Tony pour pianoter tranquille. « Ça te dirait de te manier ?» me dit-il. « Tu viens ici pour faire ton secrétariat ?»« Non, non, j'arrive !»« Tu vas faire ta calamity jaune ?»« Trop drôle !» j'ironise. « Ou tu restes bosser ici ? T'as pas besoin de fric un peu ?»« J'en ai toujours besoin, Tony, tu sais bien. J'ai des tas de trucs à faire. Tu peux même pas imaginer. » Alors, je reviens plus tard pour bosser un peu. Il faut que je trouve un vrai job, là, tu vois. Des miettes, ça me suffira pas en ce moment. Je dois encore du fric à la cantine. J'ai pas fini de rembourser la classe verte de Sabrina. Les petites ont des trous dans leurs baskets. Bref, je dois faire face. Alors, excuse-moi, mais... Ouais, je sais. Plus on a de temps, moins on en a, c'est ça? Exactement. T'as remarqué, toi aussi? Cette année, ça va être celle de mes 30 ans. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que je vais être obligée de me ranger pour faire comme les copines? C'est vrai que j'ai eu des gosses avant tout le monde. Enfin, j'ai quand même une vie trépidante. Et question mec, il n'y en a pas un qui peut se vanter de m'avoir mis le grappin dessus. J'essaie de penser à mon âge le moins possible et je demande à Tony s'il ne veut pas m'emmener au rond-point avec sa camionnette de livraison. Désolée, personne t'a obligé à faire la coursière pour les gilets jaunes. Alors maintenant que tu t'es engagée, démerde-toi. Et puis je peux pas lâcher le café comme ça. Je me tourne vers Mimi. Elle me fait une mimique à grain navré en regardant Tony qui la fusille du regard. Tu sais que je pense comme Tony, dit-elle. C'est dangereux là-bas. En plus, tu y vas avec les gosses. Je te comprends pas. Il y a des gens qui vous foncent dessus en voiture, des flics qui vous chargent. Et même parmi vous, il y a des excités qui s'énervent contre tout le monde. Non, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Alors je risque pas de t'emmener. Vous êtes vraiment des lâcheurs. Bonjour la solidarité. Tu es à mille lieues de savoir ce que je mets derrière ce mot, dit Tony. Mimi regarde à droite et à gauche d'un air penaud et buté en même temps. J'insiste. Vous savez que c'est un super moyen pour les enfants d'avoir un super petit déjeuner du samedi. Ils s'amusent avec les autres gosses et c'est délicieux, c'est le mamboula de pain au chocolat. C'est la fête. Et puis, il faut que les choses changent. Ça peut pas durer comme ça, toujours la tête sous l'eau. De temps en temps, c'est sain, faut que ça pète. Je rends son appareil à Léo, c'est pas la peine d'assister. Bon, j'ai quand même eu le temps de regarder les dernières offres d'emploi, il n'y a rien pour moi. Je me vois mal, directrice des ressources humaines dans une boîte de web marketing. C'est vrai, quoi. J'aime pas virer les gens. Ça va, dit Tony. Tu sais bien que si tu le veux vraiment, les enfants peuvent avoir des croissants ici. Je ne t'en refuserai jamais. Tu parles d'une fiesta, je marmonne, enfermée dans un café au lieu de s'éclater sur un rond-point au milieu des super constructions qu'ils ont faites. Vous n'êtes même pas venu voir. Ils ont construit la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et il y a plein de tentes partout. C'est vraiment sympa. Même Gaston, il a apprécié. D'ailleurs, il leur a écrit une chanson. Normal, Gaston, c'est un anarchiste. Et pourquoi il t'emmène pas, lui? Il est au palais pour voir un film. Ah oui, c'est vrai, c'est le festival en ce moment. Ben oui, réveillez-vous un peu, vous n'aviez pas fait gaffe. Tony jette un coup d'œil autour de lui et on dirait qu'il voit enfin tous ces gens avec un badge autour du cou qui parlent toutes les langues et qui lui ont commandé des petits déjeuners complets sans même s'apercevoir que le lait était du soja, la saucisse du tofu et qu'il n'y avait pas d'œufs. Ils sont tous plongés dans leur tablette ou dans le Hollywood Reporter. Ils envoient des emails, bref, ils ne calculent pas ce qu'ils avalent. Tony a transformé le Select en café vegan et habituellement, ça ne se bouscule pas trop pour ses petits déjeuners. Mais pendant le festival, il y a du monde partout. Pascal, le pilier du bar spécialiste du complot, est assis pour une fois à côté d'un journaliste italien qui le questionne avec passion. Il répond de bonne grâce. L'autre l'enregistre sur son téléphone. Pascal s'en donne à cœur joie à propos de l'incendie de Notre-Dame. C'est le journaliste qui l'a branché sur ce thème. Tout y passe pour ce qui est des sources du complot, le gouvernement, les francs-maçons, les gilets jaunes, les syndicats, pour terminer par le réchauffement climatique et le groupe Total. Le journaliste italien a l'air un peu décontenancé. J'explique à Tony. Gaston a une carte d'accréditation pour le festival grâce à Madonna. Alors il va voir tous les films qu'il veut. Et ce matin, il y avait un Almodovar et un Spielberg. Alors il a trahi les gilets jaunes. Tony ricane bêtement. Pourquoi tu vas pas en bus au rond-point? Au prix du ticket, je te rappelle qu'on est 5. Il sait que s'il me propose de me prêter de l'argent, je vais le rembarrer. Alors il s'en garde bien. Je me tourne vers Léo. Léo, tu voudrais pas venir m'aider? Comment je vais y aller à pied? Il y a ce gros cajot. C'est pas que je peux pas le porter, c'est juste un peu loin. Si on se relaie, ça sera facile, même à pied. Immédiatement, Léo se lève, le sourire aux lèvres, et les jumelles s'accrochent à ses basques. « Génial, trop stylé, dit Emma. Moi, je lui donne la main. Moi, l'autre, dit Lisa. » Top, je pense. Je pourrais en plus envoyer des messages à mes chéris en ligne avec son téléphone. « Ah non, Léo, dit Mimi. Tu vas pas aller là-bas. J'ai pas envie que tu reviennes avec un œil en moins. » Léo souffle et ne tient pas compte de ce qu'elle a dit. « Je suis majeur et j'ai le bac, maman, dit-il très calme. Mimi lance un regard affolé à Tony, qui hausse les épaules, très contrarié, et lave ses verres frénétiquement. On sort tous les 6 du café, dans la plus grande dignité. Léo et moi, on a l'impression d'avoir gagné une grande bataille. Tu me prêteras ton téléphone, je lui demande en lui faisant un clin d'œil. C'est le seul au courant de toute la bande. Dis donc, ça y est, t'as trouvé le grand amour ou quoi? Pas encore, mais je persiste. Je dis toujours à Léo que j'utilise son téléphone pour les sites de rencontres, ce qui est vrai aussi. Je ne dis pas que je regarde les sites de recherche d'emploi. Je ne veux pas qu'il se fasse trop de soucis pour moi. 4. En arrivant sur le rond-point, on est accueillis comme des rois. Les enfants ont l'habitude et ils m'aident à installer des viennoiseries sur une grande table à côté de la machine à café et de la grande tour Eiffel qu'ils ont construite avec des palettes de bois. Près de l'Arc de Triomphe, ils ont installé une tente, un peu comme celle qu'ils mettent sur la croisette pour les cocktails en ce moment, sauf que les bâches ici sont bleues, comme celles qu'on utilise pour protéger un chantier. « Ils sont où les autres ?» je demande à une fille qui remue une boîte avec des pièces dedans. Coralie, elle s'appelle. Elle approche des 150 kilos environ, mais comme elle est grande, la première chose qu'on pense en la regardant, c'est qu'il s'agit d'une géante, pas d'une grosse. Elle est hyper coquette, comme moi, du coup on échange souvent des plans et des adresses. On n'est pas vraiment copines parce qu'elle pique une crise chaque fois que j'ai de nouvelles fringues. Comme Mimi m'en refile pas mal, chaque fois qu'une voiture s'approche de nous, Coralie agite son gilet jaune et elle se précipite avec un grand sourire pour essayer de récolter quelques menues monnaies. En général, ça marche parce qu'elle leur fout un peu la trouille. Elle finit par s'approcher de moi et marmonne « Réunion ». Elle me parle à peine depuis que j'ai teint mon gilet en rose. Elle dit que j'ai fait ça pour me faire remarquer. Remarquer par qui ? Je le fais parce que c'est comme ça, point, c'est tout, basta. Ils commencent tous à me courir sur le petit poids avec leur façon de vouloir me dicter comment m'habiller. Léo s'approche des deux jeunes qui pianotent sur leur téléphone un peu plus loin. Ils entament une conversation sur les avantages comparés des stories sur les différents réseaux sociaux. De ce que je crois comprendre, il y a une guerre des stories et chacun y va de son commentaire. Je reconnais la fille, c'est Vanessa. Elle vient tous les samedis depuis le début. Elle vit dans un centre d'aide sociale à l'enfance et elle dit qu'ici, au moins, elle se change les idées. Elle veut être actrice de ciné. Elle a l'air toute excitée. Quand je lui demande ce qui lui arrive, elle m'explique qu'elle a réussi à avoir une audition avec un producteur-réalisateur hyper connu pour ce soir, grâce au Festival de Cannes. Les enfants sont autour de la pyramide du Louvre, constituée en palettes et bâches transparentes en plastique. Et sous les ordres de Sabrina, ils s'inventent un univers où elle distribue les rôles un peu entre Narnia et X-Men. Vu comment c'est parti, ils en ont pour un moment. Je m'approche de la grande tente où a lieu la réunion et j'en trouve le rideau d'ouverture pour glisser ma tête. Quelqu'un veut un croissant ou un café ? 5. Toutes les têtes se tournent vers moi. Ils sont environ une douzaine à se casser le ciboulot pour savoir ce qu'ils vont inventer pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Au bout de la table, il y a un type à la retraite qui note tous nos échanges sur un grand registre. C'est un ancien infirmier. Il s'appelle Jean-Pierre, JP pour les intimes. Si quelqu'un veut écrire un bouquin sur la vie d'un rond-point depuis le début, chaque samedi y est consigné. Franchement, qui aura le courage de relire un jour ? En plus, il a une écriture de pattes de fourmi. Mais il est habité par sa mission. Il n'arrête pas de gratter, de tracer des mots sur le papier. Je reconnais aussi Filou, un ronchon, Jacques, un donneur de leçons. Avec le scribe, ils font la paire. « Non, merci, me répond Filou, c'est gentil, mais on bosse, là. » Oh, lui, comme il se la joue, celui-là. « Ça va, on peut bosser et manger des croissants. » Je vais pour repartir quand soudain le dénommé Jacques m'interpelle. « Tiens, Rosie, si tu venais un peu avec nous pour nous aider à trouver quoi faire, hein ?» Je sens le reproche dans la voix. « J'ai apporté des croissants et... il n'y a pas que les croissants dans la vie. » Heureusement, une fille, Clara, prend ma défense. « Ça va, Jack, laisse-la tranquille. Elle vient avec tous ses gosses pour nous réconforter, avec des douceurs, alors franchement... »« Justement, c'est pas une garderie ici, » pleurniche-t-il. « On essaye de continuer, de se motiver, de trouver des solutions. Vous voyez pas, vous, comment on se réduit de plus en plus ? Chaque samedi, on est un peu moins. Et avec les syndicats et les grèves, on est carrément transparent maintenant. » Alors là, c'est un tollé général et on ne s'entend plus. Certains essaient de lui remonter le moral, d'autres râlent contre les lâches qui abandonnent la lutte, d'autres encore accusent les médias, les journalistes. Mais non, c'est pas vrai, faut pas les croire, les chiffres sont trafiqués, c'est tous des vendus, c'est les lobbies qui sont derrière. Ils m'ont oublié, je vais pouvoir m'éclipser. Sabrina arrive à ce moment-là et elle se place à mes côtés. Sabrina, c'est un vrai radar. Elle sent tout de suite quand quelqu'un est en difficulté et son programme Jeanne d'Arc se déclenche. Si en plus ça concerne sa mère, plus rien ne l'arrête. Viens ma puce, je lui dis, on y va. La fille qui m'a défendue, Clara, se tourne vers moi, souriante. Il n'a pas tort, Jacques, t'as toujours de bonnes idées. Viens avec nous à la table des négociations, pour une fois. La table des négociations, ça sort tout. Ça sort d'où ? On négocie quoi ici ? Avec qui ? Et que j'ai toujours de bonnes idées, j'aimerais savoir où elle a pris cette énormité. Je sais pas d'où tu sors ça, toi. Oui, il paraît que t'as même créé un opéra une fois pour réinsérer des filles au chômage dans la mode. C'est une fille qui bosse chez Kiabi qui me l'a dit. Elle en faisait partie. C'est quoi cette légende urbaine ? Je réponds en levant les yeux au ciel. Je suis fière d'avoir réussi à placer cette expression. C'est Ismène qui me l'a sorti une fois en parlant de je sais plus quoi. Urbaine, pour dire le bled. Légende, c'est quand un mytho invente une histoire. Je m'étais juré de l'utiliser un jour. C'est vrai, maman, tu te rappelles pas ? Dit Sabrina. Chez Tony, il y a eu des défilés, tu as chanté, et puis les méchants se sont cassés la figure sur les billes de Simon. Ah, tu vois, dit Clara. Tu confonds tout, Sabrina. T'étais trop petite. Ne l'écoutez pas. Elle croit que je suis Superwoman et que je sais tout. Pourtant, moi, je fais juste ce qu'on me dit, hein. J'ai rien organisé sur ce coup-là, hein. J'ai juste suivi. Coralie, la furieuse, m'interpelle. Écoute, Rosie, c'est le moment de montrer que t'es avec nous. C'est vrai. Tu te pointes tous les samedis avec des croissants et tu penses que ça suffit. Tu n'as jamais vraiment participé à aucune action avec nous. T'as même pas voulu ramasser les papiers l'autre jour. Elle commence à me casser les coucougnettes, celle-là. Je dis rien, je ronge mon frein en me demandant quand je pourrais me sortir de ce guet-apens. C'est vrai, je passe mon temps à faire le ménage déjà ou à servir des gens pour gagner ma vie. Bon, ok, ça me dérange pas. Mais si je viens ici, c'est pour faire la révolution, quoi. Pas pour nettoyer les espaces verts ou pour avoir des idées. Allez, viens, pour une fois, il faut absolument trouver quelque chose pour attirer l'attention des médias sur nous, dit Clara. Et puis ton gilet rose, là, ça craint, continue Coralie sur sa lancée. Elle en profite. Tu te crois supérieure? Le jaune, c'est pas assez bien pour toi? Le jaune, c'est la couleur des cocus, je dis. Merci, pas pour moi. On va faire une action éclatante, dit Clara, ignorant royalement notre échange de jolis mots. On va se filmer et on va poster ça sur... Allez, viens, Rosie. De mauvaise grâce, je m'assois autour de leur table bancale parce que Clara me fait de la peine. Sabrina, sérieuse, s'installe à mes côtés. J'ai une idée, dit-elle. Depuis quand c'est les gosses qui proposent des actions maintenant? Demande Philou, toujours d'aussi mauvais poil. Faudrait savoir, je réplique. D'abord, vous râlez parce qu'on n'a pas d'idée, et quand quelqu'un en propose une, vous la repoussez avant même de l'entendre. Bonjour la négociation, bonjour le grand débat, bonjour l'ouverture, bonjour la démocratie. Figure-toi que ma fille, elle est très créative. Sabrina me fait un bisou et elle sourit, contente. Comme personne ne lui dit de continuer à exposer son idée, au milieu d'un grand silence, elle reprend la parole toute seule. Vous allez vous filmer en train de faire vos courses au grand supermarché. Bingo pour ma mother. J'ai compris maintenant le pourquoi de la chanson qu'elle m'a envoyée cette nuit. C'est le dragueur des supermarchés. Qu'est-ce qu'elle est fortiche, ma Charlotte. Je ne sais pas comment elle se débrouille pour toujours savoir ce qui va m'arriver dans la journée. Vu le ton de Sabrina, c'est évident qu'on va tous finir dans un supermarché aujourd'hui. Sabrina, en général, finit par avoir gain de cause. Elle continue. Le but, c'est de leur faire peur. Vous allez entrer avec vos gilets jaunes et des mégaphones et vous allez prévenir le monde que vous en avez marre de ne pas pouvoir simplement faire vos courses, faute d'argent. Et vous allez remplir vos caddies et tout emporter. Il faudra aller vite avant que les flics soient prévenus. Il faudra choisir un supermarché du centre-ville pour que ça fasse plus de bruit et mettre des cagoules de ski pour que les caméras ne vous reconnaissent pas. Comme dans Casa de Papel. C'est la consternation. Tout le monde se regarde les yeux écarquillés, sidérés par l'audace de la proposition de Sabrina. Ils se tournent tous en même temps vers moi, comme si j'étais responsable des idées qui lui passent par la tête. Je m'apprête à prendre une engueulade et je hausse les épaules quand Jacques, le grand critiqueur général, s'exclame. Ben ta fille, Rosie, c'est une sacrée Rosa Luxembourg. Je ne vois pas trop ce que vient faire le Luxembourg, paradis fiscal pour les ultra-riches, comme chacun sait, dans cette histoire. Mais comme j'ignore encore si c'est du lard ou du cochon, je me tais. Et tout à coup, ça explose. Tout le monde applaudit à tout rompre. Il faut dire que ça fait des plombes qui n'avaient pas d'idée, alors n'importe laquelle est la bienvenue. Moi, je la trouve marrante. JP, le scribe, émet quelques objections à voix basse, tellement qu'on ne les entend pas. Coralie, la jalouse, s'en mêle. « C'est illégal de voler dans un magasin, » dit-elle. « On va pas voler, » dit Clara. « On va juste leur faire croire qu'on va repartir avec. On laissera tout devant les caisses. Ça va mettre la pagaille. Ça va leur faire prendre conscience de tas de choses de notre vie quotidienne. » Sabrina fait une moue dégoûtée. « Vous n'avez pas de bravoure. C'est pas comme ça que j'imaginais. »« Bon, Sabrina, c'est pas de leur faute. J'essaye de défendre la cause des adultes, mais c'est difficile. » Jacques s'adresse directement à elle. Et tu voyais les choses comment? Vous vous plaignez tous que tout le monde vous exploite, dit-elle, que vous n'y arrivez pas. Il est temps de prendre la revanche. Moi, j'ai pensé à faire une nouvelle répartition des richesses. Désolée, ça fait désordre, ton truc. Déni de démocratie. Non-respect des codes du vivre ensemble. Violence. Tu sais bien qu'on ne veut pas de violence. C'est trop tard, dit Sabrina. Vous ne vous rendez pas compte que tout est joué d'avance. De toute façon, vous, les gilets jaunes, vous n'obtiendrez rien, que des miettes. Tout le monde gronde sans prendre la parole. Elle poursuit. C'est fini, cette organisation. Ce qu'il faut viser maintenant, c'est la mort de tout le système. Il faut plus rien ni personne. Plus d'élections, plus de présidents, plus d'État. Table rase. Tout le monde la fixe, les yeux ronds. Un peu effrayée aussi. Elle ira loin, ta fille, dit Jacques, toujours aussi enthousiaste, mais avec une lueur de crainte dans la voix. Encouragée, Sabrina continue son délire. On va appeler notre action Opération Rêve. Opération Rêve, il y aura de la musique, demande un jeune au bout de la table. Pourquoi rêve, demande Jacques. L'idée, c'est de remplir vos caddies avec tout ce dont vous avez toujours rêvé en faisant vos courses et que vous ne pouvez jamais vous payer, explique Sabrina. C'est toujours ça de prix sur la vie. Un beau rêve. Quelques nuages roses passent dans les yeux de tout le monde. Un ange aussi, car le silence s'installe. Bon, Sabrina, je lui dis, c'est bien joli, mais plus personne ne parvient à la stopper. À la fin, il faudra crier « No state » ou « State free » si vous préférez. State, je comprends, mais pourquoi free? Comme des frites? Ma puce, tout ça, c'est ton imagination qui te joue des tours. On va faire comme elle a dit, un point c'est tout, Ralphilou. C'est pas tous les jours que... Il n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'on entend des voitures qui freinent brusquement, des portières qui claquent, des bruits de pas, des exclamations. Oh, j'espère que c'est pas les flics, dit Jacques, j'ai déjà passé samedi dernier au poste. Soudain, le rideau bouge et trois personnes entrent en trombe dans notre tente, perturbant notre grand débat. Voilà, j'arrive à un petit chapitre 6 et j'arrête là la première lecture de ce temps de confinement de Madone au Festival de Cannes.